Lecture pour vous. Une émission conçue et animée par Fernand Bailhac. Tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Lecture pour vous. Auditeur. Que vous soyez ou non amateur de lecture, que vous ayez ou non le temps et le goût de lire, vous avez tous gardé, j'en suis sûr, la nostalgie de votre petite enfance, l'époque où on vous lisait des histoires et des contes avant de vous endormir. Vous vous souvenez, j'en suis sûr, de la magie de ces livres qui avaient pris la chair d'une voix familière dans une lecture rien que pour vous. Sans interdit a été écrit par un certain Edgar d'Orsay. Mais j'entends le chef de gare qui siffle le départ. Alors, en voiture, hein, et bon voyage en sans interdit. Résumé du chapitre précédent. L'action se passe de nos jours, ou presque. Michel Prunier, 69 ans, cet ancien ouvrier imprimeur, ancien résistant, veuf, alors qu'on le croyait mort, en a réchappé miraculeusement. En plus, le voici à l'abri des soucis financiers, pour un coup de chance extraordinaire. Mais ce qu'il est plus encore, c'est que son état de santé s'améliore tellement qu'on dirait qu'il rajeunit. Ici, son corps rajeunit d'autant qu'il vieillit. Il en profite pour faire une expédition de canoë sur la Leyre dans les Landes. Il a rencontré deux jeunes femmes qu'il sort d'un mauvais pétrin.
Thank you.
Chapitre 7. La crème des filles. Je n'eus pas à choisir. D'ailleurs, les hommes ne choisissent pas, ni à 30 ans, ni à 70 ans passés. 70 ans passés, c'est pas possible. J'ai 83 ans. Non, c'est impossible. Il me semble que je n'ai 55 ans en plus. Et même moins, des fois. Ça me sort du duvet. J'ouvre la tente et passe un œil. Anne s'active sur le réchaud à gaz qui siffle, sa chanson pressée. Un peu de café, Capitaine White ? Volontiers, Mélusine. Le temps que je m'habille un peu, elle m'apporte le quart fumant. Il faut que je vous parle seul. J'ai quelque chose à vous demander. Oui ? Claire dort encore, elle n'a pas bien dormi cette nuit. Et elle veut qu'on arrête ici, ce matin. Qu'on rentre à Mexico tout de suite. La Leyre, ce n'est pas pour elle. Ou plutôt, c'est le canoë qui n'est pas pour elle. J'ai cru comprendre, mais c'est dommage, parce que vous, par contre, j'imagine que ça commençait à vous plaire, cette fantastique ambiance de bout du monde. Elle laisse passer un silence, et puis me propose la musique douce d'un petit moulin en sucre. Justement, ce sera bête pour Claire, mais moi j'aimerais bien continuer jusqu'au bout, au tèche. Le problème, c'est que toute seule, elle a bien vu hier soir. Si elle pouvait trouver un groupe qui descende, oui, mais quand? Et puis, on ne sait jamais sur qui on tombe. Alors, si vous étiez d'accord, à condition que ça ne vous ennuie pas trop d'embarquer un moussaillon, vous préférerez rester seul, peut-être. C'est votre droit. Et puis j'apprendrai avec vous, vous savez, vous me montrerez. On se sent en sécurité avec vous, c'est pas comme avec les... avec des gamins qui... Je m'entends répondre sans réfléchir. Mais le problème, il n'y a pas de problème, avec plaisir, vous savez. Évidemment, avec plaisir. Je rêve ou quoi? Je ne suis pas réveillé. À quoi ça ressemble un vieux avec une fille pareille, et blonde encore? Je freine trop tard. Il faudrait l'expliquer à Claire, parce qu'il faudrait garder la tente, les provisions, tout ça. On en a déjà parlé, elle est d'accord. Ça la soulagera de savoir que je continue avec vous. Je vous remercie, beaucoup même, beaucoup. Elle retourne vers leur tente. Je la sens sincère. Mais comment avoir des doutes devant un tel sourire? Des yeux si noisettes, des pommettes si hautes et tendues. Il n'y a que le nez très droit et affirmé, et le menton volontaire qui traduisent un fort caractère dans autant de charme. J'ai pu apprécier d'aussi près le galbe du front, très marqué, la finesse des poignets, les mains effilées d'une intellectuelle sûrement. Là, du coup, j'ai le pouls qui a pris des tours de cadran, et c'est pas le café. Et puis, si on ne s'entendait pas, si c'était une pimbèche? Le canoë est un endroit unique pour vérifier si on peut s'entendre avec quelqu'un. On le comprendra vite si ça ne va pas. Je mettrai vite les points sur les i, elle n'a pas intérêt à essayer de me... Quel est votre prénom, au fait? Vous ne nous l'avez jamais dit. Je ne l'avais pas entendu revenir. Michel. Michel, venez prendre un petit déjeuner avec nous. La séparation des deux amis fut finalement joyeuse. Claire irait faire du tourisme dans la région, et on la rejoindrait à Mexico dans, mettons, une semaine. On lui téléphonera sur son portable en cas de changement de programme. Claire me parut rassurée que Anne conserva sa tente, le duvet et tout le barda pour être autonome. Elle était surtout heureuse de la voir si rayonnante et fébrile à l'idée de poursuivre le parcours avec un bonhomme finalement sympathique et qui ne l'embêterait pas. Elle monta dans le minibus du matin, à côté du chauffeur, le canoë sur la remorque avec les autres, direction Mexicoland, pour retrouver sa golf et ses habitudes. Qui sait si elle ne ferait pas des rencontres sur les plages et dans les boîtes de Biarritz? Je tomberai donc amoureux de Anne. Anne la blonde, comme on dit, Iseux la blonde. Les cafés filtres, pH, en moins. Avec un rangement soigné, on logea les deux nouveaux petits bidons étanches dans le bateau et Anne prit place à l'avant. Elle fut enthousiasmée par la finesse du canoë et sa glisse, malgré un chargement qui devait le freiner. Elle s'appliquait beaucoup dans tous les mouvements de nage et nous prîmes très vite un rendement et un rythme confortable. Je fus vite surpris de la vitesse et de l'économie d'effort par rapport au parcours précédent. Il faut dire aussi que les courbes toujours aussi nombreuses étaient plus amples et le lit plus large. Mais c'était toujours le même émerveillement face à une nature si magnifique et si sauvage. L'eau était cristalline jusqu'au fond du sable ocre rouge et on distinguait les poissons s'enfuyant sur les côtés du bateau. Le temps était avec nous. Il fallut tomber une peau dès que le soleil réussit à nous rattraper. Les deux rives débordaient de branches pleureuses qui s'arrêtaient à quelques centimètres du courant. Elles formaient ainsi comme deux contre-allées sombres et invitantes à la façon des tunnels de buis ou de charmilles dans un jardin français. Les cris de joie démonstratifs de mon équipière témoignaient que nous vivions les mêmes sentiments. Elle raffolait, comme moi, des mêmes criques mystérieuses creusées dans les berges par les ruisseaux adjacents, s'extasiait des effets de lumière tamisée et douce, de l'ordonnance et des étages de ces arbres si inattendus dans la forêt de pins. Les nombreux chablis des berges, qui auraient dû nous rappeler un mauvais souvenir, étaient devenus à nos yeux des œuvres de sculpture. Les arbres morts surtout, quand ils n'avaient pas été tronçonnés pour faciliter le parcours, semblaient des squelettes fossiles de bêtes disparues venues mourir dans la rivière. Elle en prit de nombreuses photos. Ce qu'elle aimait aussi, c'est quand on jouait à la remise des lauriers. Profitant d'une ramure bien développée sur la rivière, je guidais doucement le bateau jusqu'à celle-ci, précisément là où Anne pourrait passer sans baisser la tête et se faire frôler les cheveux et les bras par les feuilles, comme une remise de laurier. Alors on reprenait en cœur une invocation de circonstances, à la plus belle, à la plus pure, à la plus noble de ces lieux. Je regrettais bien, aligné comme on l'était, de ne pouvoir admirer son visage et ses mimiques charmantes. Elle se retournait toujours, après sa remise de laurier, pour m'éclairer d'un sourire de gratitude de petite fille comblée. Je riais moi-même comme un gamin innocent, mais conscient de la qualité de ses instants. Mais ému aussi par ce dos plein et souple où les muscles jouaient si facilement, et par sa taille, et les petits creux des reins au-dessus du maillot, par cet or des cheveux noués qui lui cascadait sur une épaule. Elle m'avait demandé si ça ne me gênait pas qu'elle se mette en maillot, maintenant qu'elle ne craignait plus de se faire griffer, et comme elle ne supportait pas le gilet qui lui tenait trop chaud. Au premier arrêt, elle ressortit donc d'un bosquet, modeste mais sûre d'elle, dans un bikini vert à pommes à festons blancs. Je ne trouvais pas le ton juste pour commenter le défilé de mode. Elle se passa de la crème solaire, me prit la main pour m'en couvrir les bras, et me tendit le tube pour que je complète ce qu'elle n'aurait pas pu atteindre dans le dos. Mes mains tremblaient un peu à retrouver cette chaleur que j'avais oubliée depuis si longtemps et à écarter des cheveux si fins. Je pressais exagérément le tube quand je l'entendis chuchoter d'une voix douce et régulière. « Il vous plaît, mon maillot neuf, il vous plaît ?» Ça, c'était la fifille qui s'inquiète de l'approbation de son père. Puis elle continua. « Oh, bien sûr, ça vaut pas un débardeur bien mouillé. » Ça, c'était le prix de mon regard inquisiteur lors de notre première rencontre sur la rivière. Elle se retourna pour vérifier l'effet attendu. Puis, en geste de paix presque maternel, recueillit l'excédent de crème sur le tube pour m'en caresser le visage et le cou. À l'opposé de son air grave, je pouvais lire dans ses yeux sombres, qui riaient comme des folles, les ondes dorées de la rivière. Le tube m'en tomba par terre. Elle eut la grande classe de l'ignorer. CFM. Lecture pour vous. Diffusée les mardis à 22h avec rediffusion le dimanche à 15h. Chapitre 8. Tout n'est que littérature. La pause de midi ressemble à une dînette de môme. On serait des hurons perdus en territoire mohican. Assis en tailleur devant notre nappe en torchon, les couverts de plastique criard sur le sable doux d'une petite plage ombragée, on dévore. À ce rythme, il faudra vite réapprovisionner au prochain village. Oh, ce n'est pas de la gastronomie, mais c'est du pique-nique haut de gamme. Le silence de la rivière est doucement soutenu par le bruit du vol des insectes. On est seul au monde. D'ailleurs, existe-t-il ce fameux monde ? Notre simple présence efface les chants d'oiseaux, et parfois se détache du ciel le bourdonnement assourdi d'un jet en approche de Mérignac. Anne est vraiment très chouette, gaie et attentive, énergique, fine et cultivée. On a beaucoup parlé de livres et de peintures à partir de ces paysages intimistes à la douanière Rousseau. Elle habite à Nîmes, prof agrégé de français latin dans un lycée de la ville. Sa copine Claire a un cabinet de chirurgien-dentiste en ville, plein aux as. Et vous ?
Moi je fais l'artiste, je m'occupe.
Œil rond et dubitatif, et sourcils relevés de mon indienne en pareo. Manque une plume et un bandeau sur le front pour se croire au Châtelet.
Ah bon, et de quoi ? De dessin, de l'impression, de la gravure, tout ça.
On a le temps d'évoquer l'histoire ancienne. La vaisselle écologique prélude à une sieste décidée à l'unanimité. Dans un petit carré d'herbe longue, au soleil, elle se déploie sur la serviette de bain comme un bracelet d'ambre et d'émeraude, fermoir en or, sur son écrin. Je m'écarte un peu à l'ombre et me cale contre un arbre en espérant ne pas m'endormir complètement. Si je ronflais, la honte. La vie, quelle chance! Le reste de la journée se déroule à l'image du cours de la Leyre, lente et irréelle, somptueuse et surprenante de miniatures de bonheur. Le silence, l'isolement, l'intimité de la forêt sont devenus le cadre rare et fragile de nos conversations, de nos exclamations, de nos efforts conjugués sur les pelles. Parfois, Anne pose sa pagaie, puise de l'eau, au passage, et s'en rafraîchit les bras, les cuisses. M'épie d'un œil vers l'arrière, et m'adresse brusquement, d'un geste retourné, une gerbe en riant.
« Je fais giter le bateau vivement !» Ce qui l'oblige à se cramponner et à se retourner dans des cris aigus. « Arrêtez, Michel, ou je descends !»
Sans se concerter, visiblement, on est de moins en moins pressé de dérouler les étapes. Les arrêts se multiplient, pour des raisons diverses, que chacun invente alternativement et que l'autre agrée volontiers. Ici, il faut absolument photographier cette fougère particulière. Là, c'est un éclairage qu'on ne retrouvera jamais. Plus loin, c'est une plage d'île au trésor dont il faut fouler la virginité.
Est-ce que vous avez vu déjà un pain si bien proportionné ?
J'ai bien soif, pas vous ?
Oh, ces fleurs-là ! Mais vous avez vu ces fleurs-là ? Il faut qu'on s'arrête bientôt.
Moi, je piquerai volontiers une tête.
Tiens, ici c'est assez large, on pourra nager.
Le canoë à demi tiré au sec, je fouille dans le bidon à la recherche de mon maillot et de la serviette. Elle s'est éclipsée derrière les buissons et me rejoint, les cheveux roulés en chignon souple. Depuis le bord, les pieds dans l'eau, je contemple sa nuque d'antilope. Elle se moque un peu.
Alors, trop froide pour les futurs retraités ?
Faro, je me jette sur le dos dans l'eau glacée et je l'asperge copieusement quand elle y pénètre à son tour.
Elle n'a pas apprécié. Je me sens piteux comme un gamin fautif.
En quelques brasses de crawl, je la rejoins. Fidèle à l'ambiance, elle se régale d'une nage indienne qui ne mouille pas trop son chignon
et puis se décide à me démontrer tous ses talents d'ondine. Dos crawlé, brasse coulée, crawl impeccable, et puis elle plonge dans l'eau noire à quelques mètres de moi. Elle jaillit brusquement dans mon dos, m'enserre les bras et me force à descendre. Je me débats au fond. Nous remontons lentement, étreints, face à face, essoufflés. Une seconde d'éternité que je n'imaginais plus avoir à vivre. Je m'écarte pour lui cacher mon émotion. Je maudis mon âge en reprenant pied sur le sable mou. Bon, ce n'est qu'un jeu d'adolescents impatients de contact physique, somme toute. Vous revenez ou vous avez peur que je vous noie ? Trop froide pour mes vieux os. Elle continue ses longueurs. Pendant que je me sèche et me change, elle revient, les cheveux défaits sur les épaules, en repoussant l'eau énergiquement de ses jambes brunies. Elle tire la culotte sur ses fesses, la tête penchée, pour ne pas croiser mon regard. C'est alors que me vient la revanche. Vraiment chouette ce maillot. On les fait en mousseline de débardeur maintenant ? Le rouge lui monte au visage, elle vérifie partout, puis rassurée éclate franchement de rire pour conclure. 15A, balle neuve. Rien à dire. Côté balle neuve, elle est bien dotée. De celle capable de blesser le cœur le mieux blindé. Je lui tends sa serviette de bain et lui propose de monter les tentes tant qu'il fait jour. Nous irons avitailler à Moustey demain matin, car ce n'est pas loin d'après la carte. L'endroit est isolé. Et si on a besoin de faire un feu sur la plage, on ne nous détectera pas. Aucune objection, c'est moi le maître à bord. Anne va se changer à l'abri des buissons, tandis que j'extirpe les tentes des bidons. Je l'attends pour choisir les emplacements sur le haut de la berge, à la lisière de la forêt toute proche. Ici, les kayakistes matinaux ne pourront pas nous apercevoir depuis la rivière. Là, dans ces fougères, ce sera bien. Vous ici, la mienne par là. Rapprochez-vous d'ailleurs, là c'est plein d'ajoncs. Les tentes montées et les duvets étalés, on se visite et on compare les mérites de ma vieille toile rapiécée canadienne à 2 places et de Sonigou 3 places, au vent, dernier cri. Naturellement, elle veut essayer la relique. S'y faufile, se couche, puis s'écarte sur le côté pour laisser une place. Eh, on doit bien dormir serré là-dedans, vous croyez pas ? À genoux, le corps à demi rentré dans la tente, je blêmis, en pensant que ma femme est la dernière à avoir occupé cette place. Il y a... bof, je sais plus. La seule qui pourrait vous le dire, elle s'appelait Madeleine, et elle est morte en 1947. Je ressors, rabats vivement la portière de toile derrière moi. Je n'ai pas fait 2 pas dans la fougère qu'elle me rattrape par le bras. « Je suis désolé, je crois que je vous ai blessé. Je m'excuse, franchement. Je me comporte comme une gamine avec vous et je pensais pas que... Il faut que je détende l'atmosphère. Mais dans la vôtre aussi, on doit pouvoir dormir bien serré si on veut. Allez, n'y pensez plus. » Mais moi, comme dit Victor Hugo, j'y pense encore aujourd'hui. Je ne sais pas si la mention de cette femme ou la date que j'y ai associée, ou les deux à la fois, ont impressionné Anne. Mais ce soir, pendant le repas, elle est particulièrement attentionnée et m'entoure d'une déférence délicate. Ça me renvoie à mon personnage de pseudo-père, très inconfortable. La vaisselle à croupetons, en commun au bord de l'eau, rétablit un peu de connivence enfantine. La veillée autour du petit feu sur la plage réenchante la clairière et anime la surface de l'eau de tous les reflets des arbres, éclairé par cette seule lueur vibrante. C'est d'un romantisme pur 18e à la Bernardin de Saint-Pierre. Le silence inquiétant de la nuit en forêt nous force à échanger et à parler de ce qu'on voudrait peut-être cacher à l'autre. Je suis sûr qu'elle vibre des mêmes sensations que celles que j'éprouve, tellement elle s'impose. Nuit noire, isolement, étrangeté du lieu, impression de pouvoir être épiée, beauté des reflets sur l'eau inquiétante. Anne se tient là, juste à côté, à portée de mots chuchotés, en tricot de laine, il fait frais, les jupes blanches évasées, étalées sur le sable, les jambes repliées sur le côté, appuyées sur un bras ou sur l'autre. et les cheveux noués en catogan, le regard vers l'eau fascinante. Et moi, je suis assis, les bras autour des genoux, la cigarette qui fume et qui s'éteint, des morceaux de bois mort à portée de main, le regard passant de l'éclat profond de son visage à celui des flammes. Lequel m'éblouit le plus ? Ils rayonnent ensemble. On garde le silence. Il faut réagir. Comme je la sais prof de lettres, je propose à Anne un jeu littéraire. Si un amateur de rames nocturnes venait à passer sur la rivière à ce moment, que verrait-il? Qu'éprouverait-il? 50 lignes maximum, je ramasse les copies dans une heure. Vous n'avez droit à aucun document et l'orthographe sera noté. Elle me répond, ça me rappelle le bureau, mais chiche, allez, vous le premier. Un peu de bois au feu et je m'allonge les mains sous la nuque. Elle en fait autant et nous nous sentons l'un contre l'autre, parallèles, la largeur d'une épée moyenâgeuse entre nous, le parfum de ses cheveux par-dessus. Je commence. Il était une fois à Bagdad un prince très cruel et très puissant qui traitait ses sujets fort différemment. Jusqu'à 30 ans, ils étaient exonérés de taxes et de charges, mais à partir de cet âge, ils devaient fournir à ses sbires des impôts de plus en plus lourds au fil des années, jusqu'à l'écrasement et la misère totale. En outre, ce prince disposait d'un harem peuplé de beautés sans pareille, dans laquelle il puisait chaque nuit une femme nouvelle qu'il sacrifiait le jour suivant. L'une d'entre elles, une circassienne dénommée Hazar, pour échapper à son sort, lui promit de n'accepter cette mortelle union qu'à la fin seulement d'un conte très charmant qu'elle savait d'un mage appelé Alexandre Damasquiné. Le prince, par jeu, accepta la gageure, mais est-ce l'effet de hasard ou de la nécessité du jeu? Le cimetière était toujours resté dans le fourreau au bout de 25 nuits. « Cher hasard, lui dit-il en bâillant, la prof notera facile dans la marge, si demain matin tu n'as pas achevé le dernier chapitre de ce conte à dormir debout, c'est vrai qu'il manquait de sommeil, quick et requick !» Elle s'en ouvrit largement au gardien du sérail, un jeune homme habile qui, déguisé en vieillard impotent, avait conquis ce poste de confiance. Ils décidèrent de jouer la fille de l'air sur un tapis volant de la Dubai Airlines qui les transporta sur une rivière céleste affluent de la Voie lactée. Et alors ? Ils ne savaient pas que leur cachette secrète allait être découverte par la visée vizir du prince fou de rage. Par magie, ce vizir remonta la Voie lactée jusqu'au zénith, d'où il aperçut, de cette position dominante, le maigre feu qui réchauffait les deux fugitifs. Ferré d'astronomie, il avait bien vu qu'il y avait une étoile de trop. Dans la nuit, il fondit sur eux, piétina le petit feu bientôt transformé en comète de fumée et étoile filante d'étincelles, et d'un seul coup, trancha la tête des deux endormis. Et alors, comme ils avaient déjà perdu la tête, leurs beaux crânes se transformèrent en une étoile double, dont les deux corps célestes passent l'éternité à se contempler en valsant. Un long moment, on entendit parfaitement le bruit de l'eau et les craquements du feu, et le sable sous nous ne remuait pas non plus. Elle commenta. « Des facilités, mais le style est à resserrer. Citez vos sources. Attention au mélange des genres et aux anachronismes. Doit pouvoir mieux faire en travaillant le plan. 11,5 et toutes mes félicitations, bien que la fin soit un brin convenu. Je me marrais. » Elle se redressa à demi sur les coudes, la tête dans les mains, interrogative. « Mais qui est ce prince cruel ?» Je répondis. « Son nom est le temps, qui tue les beautés et accable les autres. » « Bon, à moi maintenant, » dit-elle en se recouchant sur le dos. Elle attaqua. « En ce temps-là, qui est ancien, mais a-t-il jamais existé? Le vieux Marc, roi de Cornouailles, ils aiment les vieux Marc dans ces régions, fit mander son cher neveu, le beau, le hardi baron, le preux Tresquian, pour lui faire quérir, au-delà des îles, la plus douce des reines, la blonde Isolde de la famille de Saint-Pourçant. Son corps s'agitait de petits rires réprimés. Je repris, j'intervins. « Je connais, vieille lignée écossaise, pas vrai, Isolde de Saint-Pourçant. si vous devez me couper tout le temps, j'arrête, hein. Donc, afin qu'elle ne s'amouracha pas du trop beau Christian pendant la traversée, il fut déguisé par le plus vieux en plus vieux que lui. Tunique de bure et cheveux teints, rides et moustaches postiches, l'épée dissimulée sous le manteau démodé. Dans cet attournement, on le chargea de cadeaux somptueux, et vogue la nef sur l'onde noire et les brumes du nord. Il s'acquitta fort bien de sa mission, décrivant d'une langue perfide et agile la vie de fastes et d'honneur qui attendait la promise auprès d'un noble époux fortuné. La famille, séduite par les bérils en la demeure, les jaspes, les onyx et les besants d'or, fin, conclut le mariage et poussa au départ. La pucelle, au demeurant diplômée sorcellerie, celtique. La pucelle, au demeurant diplômée sorcellerie celtique, effleurant l'arnaque autant que la forfaiture, se munit de sa pharmacopée et de son assistante laborantine. Je lui dis, si vous croyez avoir la moyenne avec ça.
Écoutez, écoutez donc.
Sur le voyage du retour, le vent leur ayant fait le coup de la panne, la voile aussi flasque que les pennons, ils eurent chaud. Elle lui versa dans un hanap un breuvage nordique, en fait un cocktail de sérum de vérité, 3 gouttes, et un révélateur de personnalité, 3 litres. L'ayant bu à grands traits, Tristian retrouva l'éclat de sa jeunesse et son visage devint aussi lisse que la mer qui était fort calme. Isolde les témoins. En un instant, elle en fut transportée, comme si un cyclone tropical était passé par là. À sa passion répondit la sienne, aussi brutale et ravageuse qu'un tsunami japonais. C'est dire combien la nef fut secouée pendant de longues journées, sans que pour une fois la météo y fût pour quelque chose. Bref, bêtement par leur faute, poussés par leur désir, ils firent naufrage en une contrée féerique et néanmoins tropicale, dans l'estuaire d'un petit fleuve côtier. J'interviens. Côtier, il y a peut-être un mastic. Ce n'est pas cocotier par hasard. Je ne vous sens pas attentif. Donc, échoué, naufragé solitaire, car gîte et tangage avaient vidé par-dessus bord laborantine et équipage, ils firent une petite hutte de branchage et un feu de fortune sur la grève limoneuse. Elle est souvent limoneuse dans ces pays. Ils s'endormirent, délivrés et comblés sous les courtines de palmes, son épée nue interposée entre leur corps allongé pour se ménager une trêve. Combien de temps? Assez pour qu'un marin de l'équipage, nain, bossu, repêché par une barque d'émigrés clandestins en route pour Tintagel, s'en fut dénoncé au roi la forfaiture du vassal félon. Tristian, Tristian, fut mis au banc du royaume. Et le roi partit sur l'heure. En Normandie, je croyais qu'on était en Bretagne. Elle me jeta du sable. Mais non, sur l'heure, tout de suite, quoi. Donc, le roi. Sa rapide embarcation le mena, sur les conseils du traître, jusqu'à ces rives étrangères où les amants vivaient, de venaison et d'herbes amères, sans plus connaître le goût du sel. Or, le roi en courroux atterrit nuitamment, saute dedans sa barque, et en force de rame, en profitant du flot de marée remontant, se guide par le feu qui rougeoie sur la berge. Il est mal discernable dans la nuit de ce lieu. Son cœur est bien plus noir que de l'encre encore. Les amants, devisant de choses ordinaires, sont rayonnants du feu, mais aussi de l'amour. Ils s'inventent des contes qui se diront naguère, qui se diront demain, qui se disent toujours. Et alors? Lors, les rois les surprirent dans son ire jalouse. Il leur trancha la tête d'un seul revers d'épée. Mais comme ils avaient déjà perdu la tête, leurs chefs se transformèrent d'une étoile double dont les deux corps célestes passent l'éternité à se mirer en valsant. Elle se redressa sur le coude, essayant d'apercevoir, à la maigre lueur du feu, l'impression sur mon visage. Un silence jumeau à la précédente conclusion se fit, aussi palpable, aussi charnel que tout à l'heure. Quand mon cœur se calma, enfin, je pouvais tenir mon rôle de correcteur. Témoigne d'une culture générale solide et d'une certaine aptitude poétique. N'en abusez pas. Évitez, malgré le cadre celtique, les allusions gauloises inconvenantes sous votre plume de jeune fille. 18 écarts et tout mon enthousiasme, surtout pour la fin si originale. Nous voilà partis dans un fou rire délicieux que réalimentaient régulièrement les citations des textes ou des commentaires, comme on jette aux flammes des poignées d'herbes sèches. La clairière se transforma en un préau de récréation rempli de nos exubérances. Nous n'avions plus peur de la nuit, ni de la barque noire qui pouvait surgir des ténèbres sur le courant noir, ni de nous-mêmes, ni de ce qui pourrait nous arriver. Calmés ou presque, nous étions de nouveau allongés sur le sable côte à côte. La large épée de taille s'était amincie à la largeur d'un fleuret, et nos épaules se frôlaient parfois. Les yeux dans les feuillages sombres, nous ne savions comment cet instant allait se transformer, et redoutions l'un comme l'autre de prendre une initiative qui eût mis fin. Je me surpris à improviser un épilogue, à partir d'un vers d'Hugo, peut-être, je ne sais plus, telles les dernières flamèches près d'un feu qui se meurt. On serait comme des gamins qui jouent, qui rêvent, roi et reine d'un soir, gisant, pétrifié, sous la crypte bleue nuit que garderaient les arbres, mains jointes, la mousse comme un coussin de marbre, mon amitié toujours comme un chien à tes pieds, priant que jamais plus le soleil ne se lève. La fraîcheur me réveilla, la tenant par la main. Il a bien fallu que je la relève, et la pousse, et la soutienne, dans le petit raidillon de sable, en pleine nuit jusqu'à la clairière. Elle ne voulait plus quitter son sommeil, et gémissait grognonne. Je l'ai fourré dans sa tente, et j'ai zippé l'auvent derrière moi. Pas de lune, la nuit est calme. 2 heures passées, on va être frais pour les courses demain. C'est plus de mon âge tout ça. Le soleil se lève pourtant. Je retrouve Anne près du feu et des casseroles, en maillot de bain, qui prépare le café. Bonjour, as-tu bien dormi? Je t'ai fait du café, mais il n'y a presque plus de pain. Pendant ce temps-là, je vais me laver à la rivière. Sois gentil de surveiller si des canots arrivent de l'amont à l'improviste. Je sais pas, tu siffles un truc pour m'avertir. Je serai là, derrière les aulnes. L'air de la relève de la garde de Carmen, ça va? Elle vide un bidon auquel elle attache une corde et y entasse affaires de toilette et serviettes. Elle le tire, il flotte derrière elle sur l'eau, puis elle disparaît sous les branchages avancés qui limitent la plage. En fait, elle m'a tutoyé sans frémir, la maligne. Je me régale de ce petit déjeuner pris dans ce décor bucolique, sans quitter des yeux l'amont de la rivière. Je vais me raser, accroupe-t-on au bord de l'eau, pendant que je discerne mal les vagues bruits de ses ablutions sous les rideaux des branches. Elle prend son temps. L'eau froide tend mon visage. Je suis surpris de la tête que je me vois dans le miroir de toilette. Ça ressemble à une photo qu'on m'avait prise il y a 15 ans. C'est pas possible. Je l'entends qui revient. Au lieu de contourner les branches à pied, elle nage à contre-courant, au milieu, en remorquant le bidon blanc au bout de la corde. Juste le visage surnageant et les cheveux flottant sur l'eau. C'est un vrai nénuphar rose, cher, et ses feuilles dorées qui remontent vers moi. Arrivée à 5 mètres, toujours dissimulée dans l'eau, elle me lance. « T'as rien vu? T'as même pas regardé ?» Je lui réponds. « Non, je te ravertis. Elle est froide ?» En guise de réponse, elle me dit. « Dommage, si seulement tu avais regardé, tu aurais vu ça. » Elle se relève, car elle a pied, avance dans l'eau, et, toute sourire et grâce, le regard planté dans le mien, fait émerger peu à peu l'évidente, l'entière splendeur de sa nudité. Elle ruisselle, insolente, innocente, de gouttes d'eau, de blondeur et de féminité offertes. Botticelli peut aller habiller son modèle. Le bidon blanc vaut bien sa conque et sa Vénus, moins que mon Aphrodite. Le parcours des quelques mètres jusqu'au bord me paraît se dérouler au ralenti, le ralenti d'un éclair. Pour faire bonne mesure, elle se retourne, se penche et ramène lentement la corde et le bidon sur le sable. La tête de côté, elle m'adresse un regard par-dessous pour vérifier si je ne suis pas encore changé en statue de sel. Alors elle me demande ingénument, « S'il te plaît, Michel, apporte-moi une serviette sèche. J'ai tombé la mienne dans l'eau. Vite, j'ai froid. » Elle vient et me touche le bras pour me réveiller. Et comme enfin je décide à bouger, elle me rattrape, m'enlace le cou et me baise les lèvres doucement, iseux ma blonde. Je lui dis, et si quelqu'un arrivait toute nue? Tu n'aurais qu'à siffler Carmen. Ça m'étonnerait, je vais avoir la bouche occupée un bout de temps. Alors cache-moi dans tes mains. Ça tiendra, tu crois? Elle commence par le contenu d'un débardeur mouillé. On verra pour la suite. La suite? Elle n'a pas besoin d'être racontée. Les voyages de noces à Venise courent dans beaucoup de romans. Quoique. En fait, la différence tient à ce que nous étions nos propres gondoliers, qu'il n'y avait pas de touristes, et que les deux seuls pigeons, c'était nous. Des palombes landaises, plutôt. Comme convenu, nous avons retrouvé Claire à Mexico, avec une semaine de retard sur les prévisions. Pas mécontente du contretemps, elle était toute chose de nous présenter un jeune belâtre, bronzé et insipide, qui eut l'esprit de me prendre pour le papa de Anne. Nous nous sommes quittés sans éclaircir ce point délicat. Claire avait gardé une chambre dans un hôtel de Biarritz et il rentrait le soir même. Anne devait passer impérativement des vacances avec sa famille en Bretagne. Mais rapidement, elle comprit que je ne puisse l'accompagner cette fois. Nous avions besoin d'atterrir et de faire séparément une analyse objective de la situation. À bientôt, Anne. Je hisserai une voile blanche pour mon retour. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de cet épisode. Vous retrouverez la suite des aventures de Michel Prunier, le retraité de 69 ans, miraculé du CHU de Rangueil, mardi prochain, à 22h. Saura-t-il mettre à profit les quelques années de bonus que la vie lui a confiées? Saura-t-il oublier ses souvenirs de résistance pour vivre un peu dans le présent? Même Anne, la jeune femme avec qui il navigue si agréablement, ne peut pas se douter de l'âge qu'il a pour l'état civil. Elle a bien du charme, cette fille. Mais comment vont évoluer leurs rapports? À la semaine prochaine. Les auditeurs qui auraient pris l'épisode en cours peuvent le réécouter dimanche à 15h et le conseiller à leurs amis. Alors à bientôt. De toute façon, cette émission est en balado-diffusion sur cfmradio.fr, rubrique lecture pour vous. Bye bye.